faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
Les Roquets Rouges sur CFM.
Bonsoir à tous.
Salut.
Bienvenue dans Les Roquets. Pour vous servir, Guillaume, assisté de Katia et
qui
d'Amanda.
Qui mange des cacahuètes.
Voilà.
Bonjour. Amanda qui mange rien.
Voilà. Benjamin n'est pas là, il est enfermé chez lui en position PLS depuis le score de 6-1 du PSG. C'est pas tant qu'il soutient le PSG, mais il a mis toutes ses indemnités chômage au loto sportif sur la qualification du PSG. Donc là, il est un peu mal. Voilà. C'est la quinzaine du camping-car, donc Romain ne sera pas là non plus. Voilà. Et Miss Rocket, et ben, la journée de la femme, c'était hier. Donc là, elle garde les enfants. Ouais, ben, c'est pas moi qui fais l'agenda, s'il te plaît. Voilà. Bon, allez,
j'ai
ça y est, j'ai lancé.
Mais
j'ai...
Pas.
Voilà. Et voilà, c'est un petit climat froid qui s'installe. Et pour le réchauffer. Bah,
deux
Amanda...
secondes, je vais aller faire le ménage. Je reviens après.
Non, non, me laissez pas tout seul. Amanda va peut-être réchauffer l'ambiance avec son édito.
Bon, justement, le fait que Miss Rocket n'est pas là en physique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là avec nous.
Bien sûr.
Parce que c'est elle qui m'a demandé ce petit édito. En fait, j'avais posté un truc sur mon Facebook personnel la semaine dernière par rapport aux lois, enfin aux propositions de loi américaines qu'ils ont tous passées depuis que Trump est devenu président. Bon, on peut se dire mais qu'est-ce qu'on a à foutre, les États-Unis s'éloignent et tout ça, mais non, j'insiste que ça pourrait se répéter, comme on a vu, il y a des effets mondiaux, on va dire. Donc elle souhaitait que j'en parle et j'ai choisi mes deux préférés. Donc HR 610, c'est une proposition de loi qui propose une nouvelle répartition de l'argent public destiné à l'éducation des enfants. Et donc la proposition, c'est de créer des bons ou des vouchers pour envoyer ces enfants dans les écoles privées. Pas tous les enfants, pas toutes les écoles. C'est vrai que oui, les écoles publiques recevront encore moins d'argent dont ils ont crucialement besoin. Et oui, peut-être ça pourrait s'apprêter à l'inégalité. Oh my god.
C'est pas facile.
Ça pourrait s'apprêter à l'inégalité des chances. Aussi l'argent des citoyens dans les poches des actionnaires des chaînes d'écoles privées, parce que oui, aux États-Unis ça existe, des chaînes des écoles privées, voilà, comme les chaînes de prisons privées. En fait, ces systèmes de privatisation, ça commence petit à petit et puis blam, c'est comme le McDo et le pauvre boulanger qui vend son sandwich à côté, quoi. Après, bah oui, c'est une avancée envers un système entièrement privatisé. Ensuite, mon deuxième préféré, c'est la proposition de loi HR 899.
On dirait vraiment des noms de pesticides.
Oui, ben, c'est peut-être conçu par les mêmes personnes qui proposent ça.
Oui, c'est pas faux.
Après, donc HR 899, c'est pour fermer le ministère de l'Éducation et pour fermer l'éducation nationale d'ici fin 2018.
Il n'y en aura plus besoin, une fois qu'on aura, avec les vouchers, envoyé tous les enfants dans les écoles privées.
Exactement, parce que logiquement, si le ministère de l'Éducation n'existe plus, bah, les écoles privées sont les seules écoles qui existent. Il n'y a plus de contrôle sur le contenu, les processus pédagogiques, les choix. Enfin, il n'y a plus de public, il n'y a plus de choix. Donc, il y a un seul choix, c'est ceux qui ont l'argent, ils en ont. Et ceux qui n'ont pas l'argent, ils n'en ont pas. Parce que je me pose la question, y aura-t-il même une loi obligeant les enfants à aller à l'école ? Mais je ne sais pas. On ne sait pas. C'est très très vague, cette proposition de loi, mais c'est au niveau national. Ensuite, bon, nos chers élus de droite qui se revendiquent protecteurs de la famille, ben, ils nous proposent un départ 100 ans en arrière, tout pour la pure cupidité. Et oui, j'ai dit la cupidité, car ce sont eux et leurs amis qui profiteront d'un système entièrement privé. Ça ne vous fait penser à rien ? Ces personnes politiques de droite qui considèrent que les portefeuilles des citoyens leur appartiennent ?
Ah, oui, oui.
Parce que oui, en
non.
France, c'est vrai qu'on est parfait.
On n'a pas de ça chez nous.
On est parfait, on a toujours la chance, on a les services publics de qualité. Ça, c'est pas du tout une blague. Je dis vraiment, on a des services publics de qualité. Je vous confirme et je fais des gros bisous à tous et toutes qui bossent dans la fonction publique. Mais si 2016 nous aurait appris une chose, c'est que rien n'est gagné. Brexit, Trump... Imaginons un président ou une présidente de France qui profitent de l'argent des citoyens, comme on l'a pu voir ces derniers temps. Parce que, bah oui, Marine Le Pen, il faut pas oublier, elle est accusée d'avoir volé 339 000 euros de l'Union européenne. Chose dont elle s'en fiche réellement. Pour elle, c'est peanuts. Pour nous, non. Enfin, nous, on se fait des soucis pour faire un des mois. Mais bon, c'est bon. Après, piqûre de rappel, parce que moi, je me suis amusée de faire les petits calculs. 339 000 divisé par le SMIC, bah, pour nous, ça correspondra à 302 ans et demi de travail.
Combien?
302 et demi.
Ah ouais.
Soit cette vie, quoi. Cette vie à temps plein au SMIC. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que...
Que Amanda retrouve ses fiches. Mmh.
Tout ça pour dire que ne n'oublions pas que deux candidats de droite nous prennent pour les tirelires à deux pattes. Ne n'oublions pas que la candidate de FN a félicité Trump le lendemain de son élection et elle trouve cette administration américaine au top. Peut-être les modèles aussi. Et ne n'oublions pas que vous, les Français, n'êtes pas condamnés à un président non élu parce que vous votez par suffrage direct. Et il suffit de voter prochainement.
Merci pour ces conseils, Amanda. Je n'étais pas du tout au courant de cette histoire de vraiment supprimer le ministère de l'Éducation nationale, carrément.
Oui, ça, c'est une proposition de loi. Et en fait, j'ai lu ça dans un article.
C'est des gens qui ont une idée comme ça qui lancent un débat ou c'est vraiment concret? Il y a un texte de rédiger déjà?
Pour l'instant, c'est assez flou. Mais c'est pas exactement le même système parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, donc maintenant que tout est relié aux républicains, ils se font des bisous, quoi. Ils passent tout. Donc nous... On regarde qu'est-ce qu'il fait Trump, parce que Trump, c'est juste le clown, en fait. Mais vous avez un mot pour ça en français,
la marionnette?
La potiche. C'est lui, en fait. Et comme ça, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai découvert cet article et je l'avais partagé. Et d'abord, ma mère, elle m'a dit, non, mais je pense que c'est une fausse source de news. Ouais. Mais en fait, entre-temps, je suis allée sur le site congress.gov, qui est le site officiel, et c'est une véritable proposition de loi.
Alors qu'est-ce qu'ils vont faire des écoles publiques? Ils vont les vendre?
Oui, comme les prisons.
Mmh.
Oh oui, non mais...
Oh, rien à foutre, oh, l'éducation, c'est bon, quoi.
Parce que, en fait, c'est l'argument entre riches, c'est-à-dire les personnes au congrès, c'est que, pas comme ça, on a le droit de choisir. De choisir le niveau d'éducation. Mais non, on n'a pas de choix si on n'a pas de sous. On n'a pas de choix si on n'a pas d'accessibilité. Enfin, l'égalité des chances, c'est pas d'avoir le choix de payer pour un truc quand tu n'as pas de rond, quoi. Enfin, je suis désolée. Mais pas vraiment désolée. Voilà.
Et t'as vu sur le site du Congrès si c'était inscrit à une discussion, un vote? Enfin, genre, il y a une date à laquelle ils vont...
Non, parce que, justement, en fait, il faut que ça passe déjà de niveau. Mais étant donné que c'est extrêmement partisan aux États-Unis. C'est ça, en fait, j'en parlais avec un proche, je parlais des dangers d'avoir que deux partis qui ressortent. Il faut absolument avoir d'autres partis dans les élections et il faut avoir une présence. Parce que sinon, dès que ça bascule, il y a tout ce qui bascule. C'est ça le problème aux États-Unis. Il n'y a que deux partis qui décident tout. Si on avait 3, 4, 5, au moins on sait qu'il n'y aura jamais... une partie avec le pouvoir total sur le pays. Et là, on le voit au pire. Enfin, c'est affreux, quoi. Et tout ça, on ne regarde pas. Parce qu'il y a Trump qui danse devant, qui fait ses trucs affreux. On aime bien avoir un bouc émissaire aussi. Mais il y a plein de choses dégueulasses qui se passent derrière aussi.
Donc, ils voteront la loi juste après avoir fait la guerre à l'Iran et à la Corée du Nord. Et après, ils cassent l'école.
Logique.
Allez, c'est bon.
Donc, pour remonter le moral.
Ouais, tu es en train de feuilleter une jaquette de CD.
J'ai fait une dédicace à un ami qui nous est parti trop tôt, il y a 2 ans, cette semaine, qui s'appelle André. Mmh. Et il adorait ce groupe qui s'appelle Arcade Fire. Donc, je vous fais écouter Modern Man, l'homme moderne de Arcade Fire.
Makes me feel like
Des roquets rouges, ils crient, ils mordent et ils s'enfuient. Du roc et du rouge.
Nous revoilà sur les roquets rouges, sur CFM 107.9, je ne me trompe pas cette fois-ci. On avait plein de débats hyper intéressants, Amanda se pose des questions que vous n'avez même pas
idées. Existentielles.
Existentielles.
Attention, ne vous spoilez pas quoi.
D'accord.
On va peut-être faire une émission entièrement dédiée à ce sujet.
Ça va être sérieux.
Ouais, voilà. Vous allez être surpris. En attendant, Katja nous fait la suite, nous fait À quoi ça sert numéro 2, le retour.
La deuxième.
Pouf.
Et oui, même titre, même thème que dans une émission précédente. Oh, c'est pas foulé. Mais non, notre développement, je vous rassure, vous qui écoutez fidèlement et presque religieusement chacune de nos émissions. Oui, j'ai encore envie de partager avec vous ce qui m'est venu comme une gifle avant-hier, en réponse à ces éternels et qui continuent. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? La lutte, la mobilisation, les syndicats, les élections, les impôts, les idées, les valeurs, les utopies. Ah oui ! À quoi ça sert ces foutues utopies, ces foutues utopistes, ces irréalistes du monde et du système, ces dangereux rêveurs ? À quoi ça sert, sinon, selon certains, à nous faire courir à la perte ? Tu vois bien, ça sert à rien. On décide de rien, le système est pourri, ça changera jamais. Ceux qui décident, ils feront toujours en sorte de garder les avantages et les privilèges. La seule chose qui reste à faire, c'est de s'occuper de soi, de pas trop mal s'en sortir, d'être prévoyant. Et pour les utopies, c'est mort. C'est de l'énergie perdue pour rien. Ou alors, et puis tu vois bien, ça sert à rien. Franchement, se battre pour des bouts de ficelle quand c'est la crise, bouh, l'horrible crise qui rend tout impossible, même de rêver. Non, mais sois réaliste, franchement, est-ce qu'avec cette méchante crise, faut pas un peu rogner sur ces utopies ? C'est dangereux, les utopies, on peut pas aider tout le monde. Faut bien choisir, non ? C'est comme ça, on peut pas défendre tout et tout le monde.
En fait, on pourrait aider tout le monde, c'est ça qui est fou.
Non, c'est la méchante crise. Alors, à quoi ça sert ? Alors, on l'avait déjà dit la dernière fois, ça sert à exister, à agir, avant la barbarie. À essayer de défendre des valeurs pour éviter la barbarie. Parce que quand la barbarie est en place, ce n'est plus la même énergie qu'il faut avoir en soi, le même courage, la même prise de risque pour défendre quoi que ce soit, et y compris sa vie. Et même pour défendre sa vie, ce n'est plus juste essayer de pas trop mal s'en sortir. Non, c'est éviter le pire à chaque instant. À quoi ça sert ? Oui, à essayer d'éviter la barbarie parce que, je sais pas vous, mais moi je suis honnête, si elle vient, si elle s'installe, si elle s'exprime, moi, je suis pas vraiment sûre, en fait, d'avoir le courage, l'incroyable courage, le valeureux courage de ceux qui luttent au péril de leur vie à ce moment-là pour l'éteindre ou la faire fuir. J'aimerais l'avoir, ce courage, mais honnêtement, je sais pas. Alors, faute de savoir cela, parce que je crois que peut-être personne ne peut vraiment savoir ce qui peut l'habiter face à la barbarie. Faute de savoir, ne faut-il pas essayer de défendre déjà ce qu'il y a à défendre ici, maintenant, urgemment, plutôt encore un peu confortablement, pour éviter d'avoir à savoir si face à l'horreur, à l'innommable, à l'inhumain, on sera chacun capable de résister au bourreau, au risque de mourir, ou capable de fuir sous l'emprise de la peur et de la panique. Ce qui m'y a fait penser, c'est une émission sur France Inter cette semaine au sujet du livre de Alaa Kodmani qui s'appelle « Seul dans Raqqa » et qui retranscrit les écrits au quotidien de Nissam Ibrahim, une femme dans Raqqa en Syrie, une ville aux mains de l'État islamique, une femme, professeur de philosophie, qui a chroniqué pendant des années sous pseudonyme, sur Internet, pour raconter, témoigner, décrire, laisser trace, ouvrir les yeux du monde, informer et ainsi, à sa manière, lutter. Avant finalement d'être dénoncée, arrêtée et exécutée par Daesh. Elle avait 30 ans, elle savait qu'elle risquait la mort, mais le défi de sa vie, c'était de ne pas abandonner, de ne pas se taire. De ne pas passer sous silence et sous oubli ce qui se passait dans le huis clos si bien organisé de cette barbarie. Utopie, certains diront, peut-être. Mais alors qui peut nier que c'est une admirable et valeureuse utopie, celle des grands, des courageux, de ceux qui face à la barbarie s'habillent de courage. Elle en est morte. Et nous ne pourrions pas, nous, résister un peu, sans danger ni grand risque encore, pour éviter cela à notre partie de l'humanité ? À quoi ça sert de défendre des idées ? D'essayer de les faire vivre, même quand on pense que c'est difficile, à éviter le pire. Qui signe trop souvent ensuite l'acceptation d'une impuissance nauséabonde. Parce que quand le mot Syrie résonne à mon oreille, c'est cette impuissance nauséabonde qui saisit mon bide et mes tripes et qui fait couler les larmes. À quoi ça sert alors nos combats ici ? Eh bien, encore une fois, à essayer de repousser cette barbarie qui écrase tellement que soit l'impuissance nous saisit, soit le courage, mais au péril de nos vies, ne devient la seule option. À quoi ça sert? À repousser, à éviter, à essayer tout du moins. Et il ne faut pas croire que l'arrivée de la barbarie sur le podium de nos gouvernants n'est réservée qu'aux championnats étrangers. Non, non, non. Elle court le sprint ici aussi, et dans un dernier virage, elle peut malheureusement toujours franchir la ligne d'arrivée.
Ouh, les filles, vous me foutez une patate.
Bon, moi, j'ai la patate parce que j'ai les chiffres. Parce que justement, quand on parle de « Oh, mais à quoi ça sert ? On peut pas avoir pour tout le monde !» Ça me rend folle. Parce que ça montre à quel point on est en train de regarder entre nous et pas au-dessus. Parce que là, je viens juste par curiosité de taper dans mon smartphone.
Chut, pas de marque.
cette affaire Fillon, par exemple, et tout, l'argent dont on parle. Parce qu'on parle pas de 1000 euros. On parle pas des 20 euros grattés par la CAF, par son voisin, parce qu'elle a une troisième enfant, ou je sais pas quoi. On parle de 831 000 euros. Soit, qu'est-ce que j'avais calculé tout à l'heure? Soit 13 vies au SMIC. Mais vies. Donc, entre les deux candidats dont je viens de parler, on est à plus que 20 personnes à vivre tranquillement. Bon, tranquillement, on est au SMIC quand même, on n'est pas très tranquille. Mmh. Mais à vivre toute une vie volée dans les instants. Fait par les choix vulgaires, en fait, très, enfin, inéquilibrés par rapport aux besoins de la société. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, c'est du foutage de gueule.
Ah oui, le problème n'est jamais économique. Le problème est une question de choix politique.
Mais je pense que ça vient, honnêtement, quand c'est des gens comme nous, ça vient d'une méconnaissance du système. On ne peut même pas imaginer l'argent dont ils ont. On ne peut même pas l'imaginer. Je ne pourrais pas imaginer l'argent qu'il a, Donald Trump, par exemple. Je ne peux pas, en fait.
Et peut-être qu'eux n'arrivent pas à imaginer le peu qu'on a aussi. Quand tu vois que les...
Non,
mais
si. Fous.
Quand tu vois, ils s'en foutent déjà, oui, beaucoup, mais quand tu vois que des politiques chez nous ne connaissent pas le prix du ticket de métro ou le prix d'une chocolatine, c'est qu'ils sont déconnectés. Et même, ouais, tu vois, Fillon, je crois que, ouais, ça le choquait pas. Ces chiffres-là, c'était normal, ça.
Oui, donc.
Ils tombent de haut, quoi. Ils sont hyper surpris qu'on leur reproche ça. Bah, quoi, c'est mon pognon, j'en fais ce que je veux. Oui, 800 000 euros, et alors, voilà, c'est une...
800 000 euros.
On a deux mondes face à face. Quoi.
Ouais, donc dans 15 ans, 15 vies, pardon, vous pourriez peut-être l'avoir. 15 vies, tout enchaîné, où on garde tout et on dépense rien.
Puis la politique n'a de sens que si c'est pour faire des choix de société et du coup de trouver les moyens d'accéder à ces choix. Mais si c'est juste être pieds et poings liés à une situation qu'on décrit impossible, pourquoi ?
Allez, tout est possible.
Mais oui, tout est possible.
C'est quoi le titre de l'émission Exister, c'est résister, c'est déjà pris. Mais à cœur vaillant, rien n'est possible, c'est ça. Voilà.
Ah. Mais on peut faire ça après l'émission, en fait.
De quoi, trouver le titre? Non, mais là, c'est fait, ça y est, c'est bon, quoi, voilà. Qui c'est qui a une musique? C'est toi, Katia?
Oui, pourquoi pas. Il y avait donc Sugarman, qui est une musique de Sexto Rodriguez. Il y avait un excellent documentaire sur Arte la semaine dernière sur ce incroyable auteur méconnu.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, Tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coat.
Moi, président de la République, j'ai une très très.
Bah, dis-le un peu le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je crois que j'ai les bolcheviks.
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Hey ou.
Hey ou.
Ouh.
Oui.
Bon. Non, mais c'est bon, on est là.
Du retour, voilà. En fait. Du retour. Sonne et. Sonne et sauve.
Sonne et sève. Ça va encore, ouais. Je vais me faire une brûlure de cigarette là sur le bras. Après
il a
la
failli.
T'as cru que j'allais le faire.
Non, tu le feras après ta chronique.
Oh non, bah, non, je vais essayer de requinquer un peu tout le monde. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui a marché. Voilà,
qui a marché littéralement.
Pour oui, non, enfin non.
Tu sais, vous n'avez pas marché.
Moi non.
Ah, je sais pas.
Oh
vu.
Merde.
Enfin, toi et ta famille politique. Non.
Voilà. Pour répondre donc à la chronique de Katia. Et pour commencer ma chronique, je vais imiter Katia qui imite Pierre-Emmanuel Barret faisant des devinettes avec des chats.
Ah, j'adore!
Comment appelle-t-on un chat qui n'est pas venu ne serait-ce qu'une demi-heure à la manif contre Marine Le Pen à Rignac le 4 mars dernier?
Katia?
Non.
Amanda.
Un chat le traître! Et là, je me rends compte que je suis le seul dans ce studio à avoir été présent à cette manif, ce qui, d'une part, explique l'absence d'hilarité générale et qui, d'autre part, illustre l'adage, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui.
Mais si, tu peux tout bon. À fait rire de ça avec nous aussi.
Ah, je plaisante, il y a toujours de bonnes excuses pour ne pas venir en manif. La seule chose que je ne saisis pas, c'est la subtilité de certains militants de gauche qui, l'année dernière, stigmatisaient les prolos ne venant pas aux manifs contre la loi travail parce que, soi-disant, ils auraient regardé la coupe d'Europe de foot, alors que ces mêmes militants ne sont pas venus samedi à la manif anti-FN parce que c'était l'anniversaire à papy. C'est toujours un bonheur de donner des leçons à des donneurs de leçons. Ce petit plaisir étant satisfait, je me rappelle que je suis mandaté par la CAF, la coordination avernaise anti-FN, pour résumer le bilan d'une semaine de mobilisation contre la tenue d'un meeting des vermines d'extrême droite. Bilan qui a été fait mardi dernier au Café de la Paix, dans ce genre de réunion formelle que beaucoup connaissent, chers auditeurs, où on en a pour une demi-heure grand maximum, où on boira juste une bière, et que quand 4 heures plus tard, le patron est en train de vous offrir sa tournée parce que vous êtes de bons clients, tu te dis que t'as bu plus de une bière, mais combien exactement, mystère. J'ai même fraternisé avec deux gauchistes d'une radio locale concurrente. Mille excuses à CFM. Donc, nous avons appris la venue de Marine Le Pen dans la charmante commune de Rignac en Aveyron, une semaine avant le drame. La rumeur courait déjà depuis quelque temps et je vous avoue qu'au début, je n'étais absolument pas motivé pour participer à une contre-manif. Si c'était pour se retrouver avec une demi-douzaine de punks antifascistes en train de beugler des chansons des Bérus, une canette de croix à la main, moi aussi je serais resté à la maison. Excusez-moi là, mais il est bourré votre copain là-bas, il fait n'importe quoi. Mais non, ce Kikou, il est toujours comme ça, le Kikou c'est un vrai. Ouais, mais là, il est en train de montrer sa bite au journaliste. Mais ce Kikou, je te dis, il était déjà antifasciste quand t'étais pas né, alors t'as rien à dire. Eh oui, j'en ai fait des manifs pour AF dans ma vie.
Mais j'allais dire justement que ça t'aurait donné une occasion pour, je sais pas, échanger tes CD SK et tout ça. Tu vois, c'est un peu le même style.
Non, c'est pas du tout le même style. Parce déjà, c'est moins vulgaire.
T'as des centaines de CD SK, j'ai l'impression.
Je sais, oui, alors. Et là, c'est du punk des années 80. Ça n'a rien à voir. C'est grotesque.
Voilà, tu vas pas en manif pour faire des échanges de CD.
Voilà, c'est ça.
Ah, moi, ouais, je pense ça.
Et oui. Et comme tu n'as pas de CD, tu n'étais pas à la manif, c'est ça? Bon, donc c'est par curiosité que je me suis rendu à l'invitation de la première réunion d'organisation et je me suis retrouvé, sans l'aide de l'alcool, à rédiger le premier appel de mobilisation. Quels que soient nos choix politiques des mois prochains, nous n'acceptons pas le projet de division de la population et de stigmatisation des minorités porté par Marine Le Pen, dangereux pour la société, disait en substance ce tract. Nous concluions en invitant la population à venir protester avec des objets sonores, casseroles, sifflets, instruments, et nous avons posté ceci sur les réseaux sociaux. Lors d'une deuxième réunion, le mardi suivant, les réactions à ce premier appel nous ont permis d'affiner notre message. En effet, les sympathisants FN ou les mous du genou avaient pour ligne de défense « Empêcher la venue d'une candidate, eh ben, c'est pas très très démocratique. Ah, elle est belle la France !» Avec les 13 organisations signataires de l'appel, nous avons donc précisé dans un second communiqué quel était l'objectif de la contre-manif. Pas question que le FN puisse jouer, comme à son habitude, la pauvre victime du système. Il ne s'agit pas d'empêcher l'expression d'un parti politique aussi infect soit-il, ni d'entraver la venue de ses participants, disait notre appel. Nous serons face à eux pour rappeler que la dédiabolisation du FN n'est qu'un leurre, que le FN est un parti qui compte le plus d'élus mis en examen, que la gestion de ses municipalités est d'une nullité crasse et que le discours de stigmatisation représente une menace pour la cohésion nationale. Tout ceci sera réaffirmé samedi, bruyamment certes, mais pacifiquement.
Il était super ce deuxième appel.
Merci, c'est moi qui l'ai écrit.
D'accord, autant que je... Oui, si, je... autant
que je... Mais il était vraiment super.
Voilà, ben ouais, je sais, c'est normal. Ensuite, nous avons lancé sur les réseaux sociaux un appel à la guérilla numérique. Je l'ai déjà répété 100 fois à cette antenne, les réseaux sociaux ont un impact énorme sur l'opinion publique. Il ne faut donc pas laisser croire que la racaille d'extrême droite représente l'opinion majoritaire. Il s'agissait de se signaler entre internautes les posts infectés par les trolls et d'intervenir pour leur répondre en bannissant insultes et menaces contre-productives. Et ça a plutôt bien marché. D'autant plus que le deuxième appel nous permettait de faire taire les fausses victimes. Chacun répondait selon ses sensibilités et ses compétences. Pour ma part, je tentais de retourner leurs propres arguments contre eux. Je rappelais par exemple les financements russes du FN et les traitais ainsi de mauvais français et de communistes, tandis qu'eux me traitaient de fascistes. On vit quand même une époque très confuse. Pour gérer d'éventuels antifas violents, nous avons envoyé notre communiqué à tous les groupes d'excités de la région en disant « Vous êtes les bienvenus, mais sur nos bases ». Nous avons ensuite fait une conférence de presse et j'ai enfin publié une tribune à l'attention de Jean-Guillaume Remise, le bureaucrate responsable du FN en Aveyron, précisant que nous avions pour but une manif pacifique et que nous espérions qu'il n'y ait pas de provocation de la part des assistés parlementaires du FN. Je veux parler de leur service d'ordre. C'est toujours mieux de le dire avant, ça désamorce. Résultat, 300 personnes à notre manif contre 6 ou 700 côté FN et une bonne couverture médiatique de notre mobilisation. Outre la presse locale, on a parlé de nous sur France 3, M6, Europe 1, France Inter, Le Parisien et Mediapart. Pas mal. Ce qui permet enfin de répondre à ceux qui, dans notre camp, disaient « Ouais, mais ces rassemblements, ça fait de la pub au Front National, vaut mieux rester chez soi. » C'est saut 2002 comme argument. Quand tu manifestes contre les violences policières, est-ce que tu fais de la pub pour les violences policières? Eh ben non, patate. Le FN n'a plus besoin d'opposants pour passer dans les médias. Au contraire, nous avons profité de l'espace médiatique créé par la venue de Marine Le Pen pour médiatiser le fait que de nombreux citoyens ne sont toujours pas dupes de sa stratégie de normalisation. Il faut rappeler que n'importe qui peut devenir un jour ou l'autre le bouc émissaire du Front National. Aujourd'hui, ce sont les juges et les journalistes, les musulmans et les immigrés. Mais demain, ça peut être les profs et les ouvriers, les jeunes, les chômeurs ou les marchands de moules, allez savoir. Bref, c'était voilà une bonne action. Voilà, une bonne mobilisation. Je suis content d'y avoir participé. Je trouve que le résultat est bon. Avec nos moyens, c'était bien. Je peux regretter qu'on n'a pas étendu plus les signataires d'organisation. C'est en gros, c'est la famille de la gauche radicale aveyronnaise qui s'est rassemblée. J'aurais bien aimé, par exemple, que le collectif citoyen signe. Ils ont relayé l'appel, hein, sans préciser s'ils le signent ou pas. J'aurais bien aimé que le PS signe, mais pareil, ils voulaient pas faire de publicité au Front National. Voilà. Donc c'est des contacts à travailler un peu plus pour l'avenir, mais sinon c'était pas mal.
Ou même une stratégie à mettre en place pour que tout le monde soit d'accord. C'est ça qui est difficile. C'est que que il y a beaucoup de gens qui pensent de la même manière, mais ça revient toujours au virgule, un mot, est-ce que le mot
pas
ça figure
ça,
dans
finalement.
Les phrases?
Parce que tu vois là,
moi dans certaines assos c'était ça, c'était est-ce qu'on relaye ou pas parce que ça ne, notre lutte ne figure pas et on ne veut pas on ne veut pas faire la com comme tu dis pour la FN quoi. Donc est-ce que on va en parler vu que ça nous s'adresse pas forcément à nous, mais oui, ça s'adresse à tout le monde.
À partir du moment où t'as déjà un texte qui est bien travaillé, ça passe mieux. Faut pas écrire le texte ensemble, c'est sûr. Ça faut jamais faire phrase par phrase. C'est le premier appel, on l'a fait à trois. Déjà, c'était hyper compliqué. On n'arrivait pas à définir ce qu'était le FN. On n'arrivait pas à... on avait plein de problèmes de...
Mais boule de merde, en fait. Voilà. Boule de merde, c'est la définition Larousse de l'FN. Boule de merde.
Ok, oui, si tu veux. Oui.
Non, mais je l'ai regardé à l'instant sur mon smartphone. Je vais pas vous dévoiler la marque.
Si le smartphone le dit, alors c'est vrai.
Après, pourquoi, selon toi, pourquoi elle a choisi Rignac? Parce que c'est au point le plus loin, toujours dans l'Aveyron, mais le plus loin de l'Arzac ou...
Non, peut-être aussi, mais c'est la plus grande salle de l'Ouest Aveyron. Et donc, le FN n'ose pas encore rentrer dans les villes. Parce qu'il y aurait des mobilisations beaucoup plus fortes. Et que c'est aussi la stratégie de com du Front National de faire la ruralité, d'aller voir les.
Oui,
les
on est comme vous,
exclus,
on est
voilà.
Les vrais.
Les agriculteurs.
Et c'est Erignac, c'est la plus grande salle.
Qui n'est pas du tout vrai.
De l'Ouest
en fait, elle a grandi dans un château, si j'ai bien compris.
Oui, bien sûr.
Donc les gens qui vivent dans les châteaux, désolé, ils se prennent pour les petits rois, les petites reines.
À noter quand même que du côté des antifas, il y a eu 2-3 individus qui ont été arrêtés par les gendarmes sur la route, ils venaient de Toulouse et ils ont trouvé dans leur coffre des boulons, des battes de baseball, une batte de baseball, donc sans doute des bricoleurs et des sportifs. Eh ben je dis bien fait pour vous. Je ne vous souhaite pas la prison, mais une grosse amende qui vous obligera à vendre vos PlayStation et vos scooters et vous ferez pouiller par vos mères, ça sera bien fait. Voilà.
Parce que toi t'es contre la violence.
Bah si ça servait à quelque chose, je veux bien en discuter, mais pour l'instant, ça servirait à victimiser le Front National, ça ne sert à rien. Ça, c'était encore à la rigueur, dans les années 90, tu pouvais en discuter quand le service d'ordre du FN était constitué de skinheads néo-nazis, où l'EF allait vraiment se défendre, ce n'est plus le cas maintenant. Ils cessaient de se normaliser, donc nous aussi, à nous d'adapter notre résistance. Voilà.
D'ailleurs, on n'a pas lu grand-chose en termes de victimisation.
Non, sur ce coup-là,
c'était aussi pour ça réussi.
Ils ont essayé de faire une polémique de théorie du complot, que le maire de Rignac aurait subi des pressions, qu'il avait d'abord accepté puis qu'il n'osait plus le faire. Bon, ça, non plus, ça n'a pas trop pris, ça. Voilà. Pour la petite anecdote aussi, j'ai été interviewé sur France 3. Mes parents ont vu, bonjour mes parents, ont vu l'interview. Ils étaient très contents et très fiers parce que j'avais mis un bonnet et une écharpe et donc j'ai pas eu froid ce jour-là.
J'allais dire, ils ont vu ton slip.
Ça, c'était une information essentielle.
Chez nous, c'est toujours le slip propre, tu vois, genre. C'est pour ça que je pose la question. Je ne savais pas si ça se voyait à la télé à ce moment-là. Parce que déjà, on sait tout
le
monde.
Vu le temps qu'il faisait.
Je suis pas allée. Mais en plus, j'ai même pas regardé les émissions qui suivaient.
Vous le regretterez peut-être le soir du premier tour. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On passe de la musique, c'est moi qui l'ai choisi. C'est là, je l'ai écouté dernièrement. C'est la BO du film Les Beaux Gosses. Elle est sympa. Voilà. Satisfy me. Think
Qui est rouge, il crie, il mord et il s'enfuit. Du rock et du rouge.
Ouf!
Allez, c'est encore les Rockets Rouges. Et ce
on
sera encore Katia, qui est la bonne élève de l'équipe, qui nous a fait deux chroniques pour le prix d'une. Alors,
ouais,
t'étais
mais...
pas sûre de,
non,
de ce que t'allais
sûre,
dire, mais tu vas
te
dire quand même et on va te dire si c'était bien ou pas.
Oui, parce que.
On va te juger.
Ouais. On vient de me mettre un couteau sous la gorge et on m'a obligé à le faire.
Bah voyons.
Fais-le!
Non, après, j'en avais fait deux parce que juste. Parce que j'étais pas sûre. Bon, moi, j'ai mal aux dents.
Voilà.
J'avais au début envie de réagir au mouvement de grève des dentistes de la semaine dernière. Alors, bien sûr, de manière générale et spontanée, je suis naturellement touchée par tout mouvement, par tout collectif qui se crée pour défendre des droits ou des meilleures conditions de travail. Et puis, passer cette première réaction assez viscérale, mais pas très rationnelle, j'aime bien quand même essayer d'aller comprendre. Alors. Autant vous dire que pour en avoir à se mettre sous la dent et comprendre,
on va faire des jeux de mots avec les dents et ouais, les bouches, ouais, super.
Et à peine. Et comprendre les tenants et les aboutissants de ce mouvement des dentistes, faut un peu s'accrocher. C'est assez complexe. Et si on prend 10 articles de presse qui l'évoquent, il faut bien dire que seulement un ou deux se lancent à décrypter la nature et la raison des revendications de ces médecins. Donc voilà, je le dis, je suis pas sûre à 100% d'avoir saisi toutes les finesses de leur désaccord avec leur gouvernement. Mais quand même en avoir saisi assez pour être un peu dérangé et que mon élan devienne un peu en dents de scie. Alors au départ, c'est une négociation entre le gouvernement et la profession autour d'un constat simple qui vient de la Cour des comptes. Alors c'est pas l'institution la plus gaucho-alternative de notre pays, c'est pas non plus franchement connu pour appeler à des implications plus grandes du service public, mais la Cour des comptes fait le constat qu'une part importante de personnes ayant besoin de soins dentaires y renoncent pour des raisons financières. De là, le gouvernement de son côté indique vouloir plafonner le tarif des soins les plus coûteux, soit les prothèses dentaires, alors que les dentistes, eux, expliquent qu'ils sont contraints d'exploser ces tarifs-là pour compenser le manque à gagner des soins de base, qui, eux, sont plafonnés, insuffisamment remboursés, et donc ils pratiquent à perte ces soins de base.
Les pauvres.
Le gouvernement propose alors, du coup, plutôt sympa, de valoriser le remboursement des soins de base à perte, à condition que les soins prothétiques soient plafonnés à 510 ou 540 euros, et là, tollé.
Ce qui est déjà pas mal, non ?
Effectivement, je vais détailler un peu après, c'est pas mal. Tollé, parce que si en moyenne les praticiens facturent une couronne aux alentours de 400 euros, d'autres montent jusqu'à 1800 euros. Donc forcément, diminuer un acte de 1800 euros à 540 euros, ça fait mal aux dents. Ça fait grincer des dents. Alors, ce qu'il faut savoir...
Ces jeux de mots sont approuvés par Guillaume Moreau.
Je l'imagine en train d'écrire sa chronique, c'est pour ça que je rigole. Elle a mort de rire devant son clavier.
Et encore, avec Wikipédia, tu connais pas ma robe de jeux de mots sur les dents.
Non, j'ai cherché toute seule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance maladie rembourse une couronne 75,25 euros. Une très bonne mutuelle rajoute jusqu'à 215 euros, ce qui veut dire que dans ce cas, en étant très bien couvert, il reste encore en moyenne à financer au bas mot 110 euros. Mais la majorité des mutuelles d'entreprise, qui sont de plus en plus obligatoires, ne prennent pas en charge les prothèses dentaires. Donc pour la plupart des assurés, au bas mot, il faudra sortir de sa poche pour une couronne 325 euros.
Ça m'étonne pas.
Et ils s'en mordront les doigts.
Parce que moi, je suis à la mutuelle de mon entreprise, il y a plein de trucs qui ne sont pas pris en compte.
Eh ben tu paieras tes prothèses. Pour les personnes à bas revenus, assurées à la CMU, c'est 107,50 euros de remboursés par la Sécurité sociale et des actes plafonnés à 230 euros, ce qui veut dire qu'une personne à la CMU c'est-à-dire précaire, doit financer 123 euros. Il y a donc effectivement une vraie discussion financière dans l'accès, une vraie dissuasion financière dans l'accès aux soins, et notamment pour les plus précaires d'entre nous. Mais de cela, ce qui me dérange, c'est que les médecins en mouvement n'en parlent pas. Ils parlent de pertes, de charges, de revalorisation de leurs actes, mais absolument pas de la difficulté à se soigner pour une partie de leurs concitoyens, absolument pas de l'inégalité dans l'accès à ces soins, qui sont quand même plutôt de l'ordre du nécessaire et pas du confort. Le jour où on a besoin d'avoir une prothèse, c'est que vraiment on douille. Et très peu, ils font très peu de propositions pour favoriser l'accès aux soins du plus grand nombre et des plus pauvres, uniquement des évocations de prévention nécessaire pour diminuer les problèmes les plus importants. Leur proposition, c'est de dire aux gens qu'il faut plus se laver les dents. Mmh. Sauf que
on n'a pas tous besoin d'une croquette parce qu'on ne sait pas laver. Raffiné, enfin, quand même, on a un régime extrêmement sucré.
Mais nos problèmes dentaires sont pas toujours liés à notre
régime. C'est les choses qui trouvent aux dents.
Bah, on est aussi inégaux. On a des salives inégales, des systèmes inégaux.
Oh, mais
inégaux.
Ça, c'est sûr. Les émails et tout ça, mais...
Bref, ouais. Hippocrate.
C'est pas que le dentifrice qui change.
Là, on a un débat sur la santé des dents là, qui est important, là, je crois. Ouais.
Allez-y, foutez votre nez.
Les cigarettes aussi, hein, ça touche les dents.
Il n'y a que toi qui fumes ici, Guillaume.
Oui, Tristan.
Ok.
Oui, voilà.
Ok.
Donc j'ai voilà. Très jolies dents.
En bref, Hippocrate n'est pas convoqué à battre le pavé. Ce que je lis également, c'est qu'une couronne, pour rester toujours sur cet exemple, coûte à l'achat, selon les associations de consommateurs, 115 euros. Alors on est d'accord que là-dessus doit s'ajouter le tarif de la main-d'œuvre, du travail du praticien, la prise en compte des charges. Ok, mais finalement, les praticiens qui seront effectivement pénalisés par le plafonnement de ces actes, parce que la revalorisation des actes de base ne compensera pas le manque à gagner des tarifs hors du commun pratiqués sur les prothèses, seront, donc ceux qui seront perdants dans ce calcul, soyons honnêtes, c'est pas ceux qui facturent la couronne à 400 euros, puisque ceux-là, ils pourront toujours continuer à le faire. Non, ceux qui seront pénalisés, c'est plutôt ceux qui la facturent à 1800 euros. Alors pensons-nous vraiment, quand on entend qu'ils risquent de mettre la clé sous la porte, de ne plus pouvoir investir dans leur cabinet, pensons-nous vraiment que les praticiens qui facturent une prothèse à 1800 euros sont de nature à se retrouver en difficulté en fin de mois? Alors oui, j'entends bien, je comprends bien que personne ne peut voir avec joie la diminution de son salaire. J'entends bien, je comprends bien que la défense des conditions de travail et des rémunérations des uns sert le combat des autres. Ok, mais quand même, est-ce que parmi ces praticiens qui battent le pavé, qui a lutté ou même ne serait-ce qu'intellectuellement soutenu d'autres mouvements autrement plus précaires, par exemple les mobilisations contre la loi travail? Alors, après... renseignement, oui, il y a quelque chose qui me dérange dans une lutte qui ne parle pas de redistribution, d'égalité, de protection, dans une lutte qui, sauf erreur de ma part, ne semble pas en avoir soutenu beaucoup d'autres, dans la lutte d'une profession qui est pourtant centrée sur des valeurs universelles d'assistance et qui ne l'évoque pas ou si peu. Alors je dois le reconnaître, il y a peut-être un argument qui me touche, mais il faut se lever tôt pour aller l'entendre. C'est l'idée que le plafonnement du tarif ne permettra pas aux praticiens de proposer à leurs patients des techniques modernes, moins chimiques, moins invasives et donc plus coûteuses. Et que donc ce plafonnement empêchera l'accès à de meilleurs soins. C'est vrai, et c'est fort dommageable, mais quand même, à ce jour, les tarifs libres, ils n'empêchent pas de proposer des évolutions de pointe, mais quand même, ils les réservent à une certaine catégorie de la population, grand bien lui fasse, mais en aucun cas, ils ne considèrent que nous sommes tous égaux dans un accès aux soins de qualité. Et là encore, je n'entends à aucun moment de revendication qui demande la meilleure prise en compte pour tous des soins techniques de pointe, ni aujourd'hui, ni avant d'ailleurs. Bref. Tout ça, ça me pose une question et j'ai pas vraiment de réponse de la limite de l'universalité du concept de convergence des luttes. Y a-t-il réellement une convergence possible de toutes les luttes en l'état de leur formulation? Et là, ben, ça me fait grincer des dents.
Et tu as une dent contre les dentistes?
Non, mais après, c'est l'exemple actuel. Oh, une dent contre les dentistes.
Bah oui.
Pardon.
Je viens en fait, je suis sur mon téléphone. Moi, je suis obsédée. Ouais, bah, c'est oui, parce ça. Que, en parlant de ça, j'ai envoyé un texte à ma mère aux États-Unis pour demander combien ça coûtait, mes soins dentaires quand j'avais 12 ans. Parce que quand j'avais 12 ans, j'ai cassé 5 dents.
Tu vois, t'es
moi,
j'en fais,
moi, je me fais fort, hein. Moi, c'est jamais une petite chose, tu vois. Et bon, elle m'a dit qu'à l'époque, bah, c'était les années 90, donc il y avait une grosse partie qui était prise par sa mutuelle, parce qu'à l'époque, c'était vachement performant et tout ça. Mais moi, je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, restons vigilantes. En France, on a des soins dentaires qui sont plus ou moins abordables, peut-être pas en ratio, enfin, en relation au salaire qui sont distribués. Mais moi, j'ai une copine en Californie, son fils, il a un carré, il fallait qu'elle paye 500 dollars. pour remplir un
carré. Ah, le petit con.
Parce que c'est du privé après. En fait, c'est juste pour dire que oui, il faut absolument faire comme Katia pour rester vigilant, voir comment ça augmente, qu'est-ce que c'est égal, qu'est-ce qui reste possible pour tout le monde. Égalité, fraternité, égalité, merde quoi.
C'est vrai que moi, entre
liberté, c'est cela, ouais.
Entre toutes les couronnes et les briges que j'ai dans la bouche, j'ai le prix d'une voiture d'occasion dans la bouche, moi.
Mais lui, c'est du bling bling. On peut même pas s'ouvrir les yeux. En fait, c'est du doré partout.
J'ai pas de dents en or, ça va quoi.
Si, on en voit quand même là.
Ah,
non
au fond là. Bah ouais. C'est un investissement, c'est tout quoi. Faut investir dans l'or. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, il nous reste pas beaucoup de temps. Merci Katia.
Bah,
on réfléchira à ça.
Ouais.
On avait un petit agenda à proposer pour terminer. Là, les dates, là, il nous reste en 3 minutes. Allez, vite, qu'est-ce qu'il
on
y a? Il y a des conférences, des expositions, des concerts.
Alors, on est diffusé mardi 14 mars et donc ce jeudi 16 mars, il y a une conférence gesticulée sur le salaire universel. Et ça doit se passer à la maison des associations, mais
le soir, ouais.
Ouais,
renseignez-vous, démerdez-vous.
Voilà, ouais. Vous trouverez l'info.
Sur l'agenda de la mairie, c'est marqué. Voilà.
Si jamais on se dit, j'ai juste envie de boire une bière,
ouais.
On pourrait aller à la soirée à Peur au Vinyle, à la Pachola. Donc c'est l'association Why Not qui met ça en place. Et c'est pareil, le 16 mars. Après, il y a une expo super sympa à la médiathèque de Rodez. Ça va jusqu'au 18 mars et c'est gratuit. Et en fait, c'est 17 portraits de femmes, droits humains et égalité, amenés donc par la Ligue des droits de l'homme et la Ligue des droits de femmes. Bon, bref.
Oh, et l'homme avec un grand âge.
Et le planning familial. Donc, jusqu'au 18 mars, passez, regardez ça, les médiathèques de Rodez.
Et Katia, t'avais aussi un...
Un scoop.
Dis-nous.
Puisque ça n'a pas trop communiqué dessus encore, mais ça n'a pas tardé. Le 22, mercredi 22 à 18h30 au club, il y a la restitution d'un travail et du résultat d'une rencontre, en fait, entre des résidents musiciens albanais du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, Donner le Château, et d'un groupe de musique de Transbalkanique qui s'appelle Derine Golen, qui est venu dans le cadre de Regard sur l'exil l'an dernier au club. Et donc, ce groupe a rencontré ces demandeurs d'asile et ils se mettent au travail pendant 3 jours ensemble pour créer, et il y a une restitution publique. Donc, le 22 mars à 18h30 au club, entrée 5€, et sur place, il y aura des spécialités du monde.
Waouh! De la cuisine albanaise?
Entre autres.
Trop bon. Du pain avec des cailloux?
Non, pardon, c'est des patates, c'est des patates frites, moi j'aime bien.
Oh, albanais, pardon, si tu nous écoutes. Pardonne-les.
Je m'excuse à tout l'auditoire
mais
albanais.
Mais c'est bon, dans tous les cas, on les mange.
Non, oui.
Les cailloux?
Oui!
Ah non, tu te casses les dents. Bon. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous et à bientôt. Ciao.
Salut.
Bisous.
Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on dit, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Great war.
Les Roquets Rouges sur CFM.